À l'écoute de RFI, il est 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Paget.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à l'une ce soir, cette attaque meurtrière contre Kiev qui a fait au moins 10 morts et 70 blessés.
C'est la plus importante à avoir frappé de la capitale ukrainienne cette année. À suivre le reportage de notre correspondante qui a recueilli le témoignage des habitants du quartier le plus touché de Kiev. L'attaque a été tellement forte qu'elle a suscité une rare réaction de Donald Trump. Vladimir, arrête, s'est exclamé le président américain à l'intention de son homologue russe. Nous appellerons Guillaume Nodin à Washington.
Et puis le porte-parole du Kremlin qui s'exprime devant la presse française, c'est une première depuis 3 ans. Et c'est l'hebdomadaire Le Point qui réalise cet entretien exclusif de Dmitri Peskov. Nous serons en ligne après ce grand journal du soir avec la journaliste qui a mené l'interview.
Et à suivre pendant ce journal également le dossier du 20h, la tension au plus haut entre l'Inde et le Pakistan. Après l'attentat de ce mardi qui a fait 26 morts, l'Inde accuse implicitement le Pakistan. Les deux pays ont déjà pris toute une série de sanctions. Alors jusqu'où ira-t-on? Y aura-t-il une escalade militaire? Nous verrons cela avec Nicolas Falaise.
Autre titre ce soir, à Nantes, en France, une lycéenne tuée, 3 autres blessés à coups de couteau par un élève.
Ouais, sur place, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, affirme qu'il ne s'agit pas d'un fait divers mais d'un fait de société. Et le Premier ministre François Bayrou demande sous 4 semaines des propositions concrètes autour des violences commises par des mineurs avec des armes blanches.
145 drones, 70 missiles, dont 11 balistiques. L'attaque qui a été lancée par la Russie contre Kiev la nuit dernière est la plus importante à avoir frappé la capitale ukrainienne cette année.
Ouais, au moins 10 personnes sont mortes, 70 ont été blessées. Volodymyr Zelensky était à Pretoria en Afrique du Sud lorsque l'attaque a été lancée. Le président ukrainien a écourté sa visite pour rentrer à Kiev. Notre correspondante, Cerise Sudry-Ledu, s'est rendue dans le quartier de Sviatochine, le plus touché. Sur les 10 personnes tuées la nuit dernière, 8 l'ont été ici. Reportage.
Olena est en pyjama, un satin blanc taché de sang par endroits.
C'est good, ok. Ce n'est rien, je suis heureuse d'être en vie.
Elle se tient dans l'arrière-cour de l'immeuble où elle vivait. À certains endroits, la façade percée de trous béants laisse apparaître l'intérieur des appartements. Avec son mari, ils habitaient au 4e étage. Réveillés par l'explosion, ils patientent depuis dans leur voiture, attendant qu'une amie leur apporte des vêtements propres.
Je ne sais pas ce qu'il va se passer avec mon chat. Il est à l'intérieur et on attend les instructions des soldats.
Dans ce quartier résidentiel de l'Est de Kiev, l'immeuble devant nous a été presque entièrement détruit, mais les dégâts s'étendent sur plusieurs pâtés de maisons, vitres pulvérisées, toitures éventrées ou intérieurs dévastés. Tatiana, mère de 3 enfants, fait la queue pour obtenir un peu de plastique, de quoi couvrir les fenêtres arrachées.
Le choc était énorme, tout a été arraché. Les fenêtres, les portes, la porte d'entrée, celle de l'immeuble. Et on a juste couru dans l'abri, cet abri-là. Et on y est resté presque jusqu'à la fin de l'alerte. Et mon mari, lui, a aidé tout de suite à déblayer les gravats parce qu'il y avait des gens vivants en dessous. Ils ont sorti un homme mort et une femme encore vivante.
Un peu partout, des policiers recueillent les dépositions de ses habitants sur les formulaires, un titre... Réfugiés. Cerise Sudry-Ledu, Kiev, RFI.
Alors ce bombardement montre que malgré les efforts affichés en sens par Donald Trump, un cessez-le-feu est encore loin. Le président américain continue à demander un arrêt des hostilités. Il accuse les protagonistes d'entraver ses efforts, mais il ne leur dit pas de la même manière. Nous sommes avec Guillaume Nodin en direct de Washington. Bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Donald Trump s'est adressé au président russe aujourd'hui avec modération.
Vladimir, arrête, dit le président américain sur son réseau social personnel. Donald Trump écrit qu'il n'est pas content des frappes russes sur la capitale ukrainienne. Il explique qu'elles ne sont pas nécessaires et qu'elles interviennent à un mauvais moment et il appelle à faire la paix. 3 lignes, contrairement à sa diatribe de la veille pour accuser le président ukrainien de se vanter à la une du Wall Street Journal du fait qu'il ne reconnaîtra pas légalement l'occupation de la Crimée. Des propos incendiaires qui rendent difficile le règlement de la guerre, dit Donald Trump. Hier, dans le bureau ovale, il disait avoir trouvé un accord avec la Russie, mais pas encore avec l'Ukraine, soulignant que les rapports sont pour lui plus faciles avec Vladimir Poutine qu'avec Volodymyr Zelensky. Une fois de plus, comme il l'avait fait lors de l'humiliation publique du président ukrainien dans le bureau ovale, il souligne que celui-ci n'a pas les cartes en main, autrement dit qu'il n'a pas vraiment le choix. Donald Trump se défend de prendre le parti de la Russie, mais plutôt celui des soldats, il ne mentionne pas les civils, qui meurent sur le terrain. Il évalue ce nombre à 5000 par semaine, soit le double de ses précédentes estimations. C'est pour cela qu'il y a urgence, selon lui, qui avait promis de régler la question en 24 heures.
Merci Guillaume Nodin en direct de Washington.
Il est 20h05 ici à Paris, minuit 5 à New Delhi. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du soir avec Christophe Pagé. Christophe, la tension est au plus haut ce soir entre l'Inde et le Pakistan.
Oui, ces dernières années, cela allait mieux entre les deux pays, les deux voisins qui se sont fait la guerre à plusieurs reprises, on s'en souvient. Mais cette semaine, il y a eu cette attaque meurtrière dans la région frontalière du Cachemire indien. Attaque qui a fait au moins 26 morts, 26 civils. Et l'Inde accuse implicitement le Pakistan qui dément toute implication. En tout cas, les deux pays ont déjà annoncé des sanctions et tout le monde se pose la question... Jusqu'où ira l'escalade? C'est le dossier de ce 20h. Nicolas Falaise, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Falaise du service international de RFI. Jusqu'où ira l'escalade? En clair, y a-t-il un risque de confrontation militaire?
Il faut se souvenir qu'en 2019, à la suite déjà d'un attentat dans la région du Cachemire, l'Inde avait bombardé des objectifs en territoire pakistanais. Donc, le scénario militaire existe. Inde, Pakistan, on parle de deux puissances nucléaires. Mais selon Jean-Joseph Boyau, spécialiste de la région, la dissuasion fonctionne entre les deux voisins.
Depuis que le Pakistan a l'arme nucléaire, il n'est plus question de faire de guerre. Voilà, c'est la réalité. C'est triste à dire d'ailleurs. Mais on voit très très bien que l'Inde désormais a compris que le Pakistan a l'arme nucléaire et qu'il n'était plus du tout question de guerre classique avec le Pakistan. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la question du Cachemire est aussi importante, parce que c'est une sorte de proxy, hein, de guerre si vous voulez, sans faire la guerre avec le Pakistan. Donc la théorie de l'équilibre des forces par le nucléaire, elle fonctionne entre le Pakistan et l'Inde. Du côté indien comme du côté pakistanais, on est plutôt dans l'équilibre de la terreur pour le meilleur et espérons pas pour le pire.
Mais pour l'instant, c'est à coup d'annonce que les deux pays se battent, Nicolas.
Oui, mesure spectaculaire. Hein. L'Inde annule les visas qui ont été accordés à des citoyens pakistanais et leur donne quelques jours pour quitter le territoire indien. Le Pakistan riposte avec une mesure réciproque, l'annulation donc des visas des ressortissants indiens et avec aussi l'interdiction de son espace aérien aux compagnies indiennes. Les deux pays ont aussi expulsé des diplomates et fermé des postes frontières. Et puis cette autre mesure de rétorsion, l'Inde qui suspend le traité de partage des eaux du fleuve Indus.
Et le Pakistan affirme que toute tentative de réduire son approvisionnement en eau serait, je cite, un acte de guerre.
Il faut dire que l'on parle ici d'une ressource à la fois stratégique et menacée, comme l'explique Jean-Joseph Boileau, conseiller à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
Il faut savoir qu'avec le changement climatique, c'est une réalité, puisque la zone himalayenne est la plus touchée de la planète, avec l'Arctique, on a des problèmes croissants aujourd'hui de pénurie d'eau, donc la gestion de l'eau devient une question absolument urgente.
Mais Jean-Joseph Boileau, comme d'autres spécialistes de la région, précise aussi que l'Inde n'a pas la capacité de couper l'approvisionnement en eau de son voisin pakistanais.
Merci Nicolas Falaise, c'était le dossier de ce 20h. Direction maintenant Gaza, le nord de la bande de Gaza, où l'armée israélienne appelle les habitants de Beit Hanoun et de Sheikh Yazed à évacuer en prévision de frappes, affirmant que le Hamas porte l'entière responsabilité du déplacement et de la souffrance des civils. Ce matin, au moins 36 personnes ont été tuées, dont de nouveaux bombardements israéliens dans la bande de Gaza, annonce faite par la défense civile palestinienne. L'Iran se dit prêt à se rendre en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pour discuter nucléaire. Téhéran est en pleine discussion avec les États-Unis qui, selon les spécialistes, n'ont pas coordonné leurs efforts avec l'Europe. Or, l'Iran aimerait bien parler avec certains pays d'Europe, car en décembre dernier, Paris, Londres et Berlin s'étaient dit prêts à réimposer des sanctions internationales pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire.
Allez, direction à présent Nantes en France, où une lycéenne a été tuée, trois autres blessés lors d'une attaque au couteau menée par un autre élève.
Un élève qui a ensuite été maîtrisé par des enseignants, puis arrêté par la police. Ça s'est passé vers 12h30 dans le collège lycée privé Notre-Dame de toute aide. La rue menant à l'établissement a été bloquée, avec un périmètre de sécurité surveillé par des policiers et des militaires de Vigipirate. Les élèves ont évidemment été évacués. Parmi eux, Martin, je vous propose d'écouter son témoignage. Avant l'attaque, comme d'autres camarades, il avait reçu un long email de l'assaillant où il était question, entre autres, de conditionnement social et d'écocide.
À 12h15, tous les élèves du lycée ont reçu, je ne sais pas si les enseignants aussi, mais on a reçu un mail donc de l'élève en question qui a fait les actes. Donc c'était un mail de 13 pages avec des grands textes et quelques illustrations. On n'a pas le temps de le lire, c'est très long, mais c'est un mail qui dit qui parle de la société actuelle, etc. Ça montrait que c'était prémédité ce qu'il allait faire. Ça s'est passé entre 12h15 et 13h, après j'ai pas l'heure exacte. Et donc après, nous, on était en cours, hein, mais on n'a pas été, on a été prévenus que lors de la sortie des cours. De ce que j'ai entendu, il y a eu une petite alarme, mais donc quand on est sorti, puis après, effectivement, on a vu toutes les forces de l'ordre et les pompiers, le SAMU, le SMUR et tout ça arriver. Pour nous, c'est absolument choquant. Hein. On est dans un lycée qui a d'habitude des pourtant très calme. Enfin, il n'y a jamais eu de problème de ce type-là, même des problèmes mineurs. Là, de voir en plus une élève décédée, une camarade, ça nous a fait vraiment froid dans le dos. Hein. Il y a eu des pleurs, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment très choquant pour nous.
Un témoignage recueilli par Quentin Meunier. Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, Bruno Retailleau et Elisabeth Borne, sont arrivés sur place. Bruno Retailleau affirme qu'il ne s'agit pas d'un fait divers, mais d'un fait de société. Et le Premier ministre, François Bayrou, demande aujourd'hui une intensification des contrôles mis en place aux abords et au sein des établissements scolaires. Et il demande aussi, sous 4 semaines, des propositions concrètes autour des violences commises par des mineurs avec des armes blanches. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, condamnation pour la réponse apportée par la justice française à 3 jeunes filles, 3 mineurs de 13, 14 et 16 ans, qui avaient dénoncé en vain des viols. Les circonstances des faits n'ont pas été suffisamment prises en compte, la procédure pénale a été trop lente. La France devra verser 25 000 euros à l'une des victimes au titre de dommages moraux et 15 000 euros à chacune des deux autres.
Et puis également en France, cette alerte ce jeudi concernant 2 familles de pesticides.
Une alerte de l'ANSES, l'agence sanitaire française, sur les effets néfastes de ces pesticides, notamment sur la santé des enfants. L'alerte porte surtout sur la 30aine d'insecticides pyréthrinoïdes, encore très utilisés en agriculture, mais aussi dans l'univers domestique. Lucille Gimbert.
À la maison, les pyréthrinoïdes sont présents dans les bombes insecticides, dans les prises anti-moustiques, dans les lotions anti-poux ou encore dans les produits anti-puces pour les animaux. Problème, l'exposition à ces pesticides entraîne un risque accru de troubles du comportement pour les enfants à naître et pour les nourrissons et un risque accru de troubles de la fertilité et de cancer pour les adultes. L'agence sanitaire recommande donc de réduire leur usage au strict nécessaire. Mathieu Schuller de l'ANSES.
C'est très différent de se dire je suis dans une situation qu'on comparable à nos concitoyens à La Réunion et il faut se protéger des moustiques qui sont porteurs de dengue, versus j'ai quelques araignées ou quelques insectes chez moi.
Quant à l'usage de ces insecticides dans les champs, l'agence sanitaire appelle à faire remonter automatiquement au niveau national les informations compilées par les agriculteurs dans leur cahier de traitement. Quelle substance a été appliquée, où, quand et en quelle quantité? Pour le moment, ces données restent dans les fermes et ne sont conservées que 5 ans.
Nous, ce qui nous intéresserait, c'est lorsqu'il y a un cluster de maladies qui est signalée dans une région, et ça arrive régulièrement. Quels sont les usages réels qui ont eu lieu et est-ce qu'on peut les mettre en regard? Et ça permettrait de conclure clairement et rapidement dans un sens comme dans un autre.
La Commission européenne avait poussé un projet de règlement en ce sens au sein du Pacte vert, mais face aux réticences agricoles, il a été rejeté par les eurodéputés en 2023.
Lucille Gimbert, fuite de pétrole en Serbie. 82 000 litres de pétrole ont été renversés lors de leur transfert d'une raffinerie sur une barge. Ça s'est passé sur le fleuve Danube à 20 kilomètres de la capitale, Belgrade. Une enquête a été ouverte. La pollution est très importante en Serbie, où moins de 15% des eaux usées sont traitées. Le reste, les déchets provenant des égouts, sont déversés directement dans les fleuves et les rivières.
Allez, la musique apaise les mœurs. Christophe Paget, voici un chanteur qui était il y a quelques jours sur la scène du Printemps de Bourges pour présenter son nouvel album.
Et il sera en concert à Paris à la fin de ce mois. Il s'appelle Thibaut Van Hooland, mais le public le connaît surtout par son nom de scène, évidemment. Voyou, de retour avec un album de reprise autour d'un véritable monument de la chanson française, Henri Salvador. Et non Sadaka.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Rouen.
Après la parution de son 2e disque en 2023, porté notamment par un duo avec Vanessa Paradis, et après plus d'une centaine de concerts, Voyou rend hommage ici à un artiste avec qui il a de nombreux points communs, dont un goût prononcé pour le jazz, la bossa nova et plus globalement pour les musiques sud-américaines. Avec cet album, qui est son 3e disque studio, Voyou propose une relecture de quelques chansons du crooner disparu en 2008, des chansons empreintes très souvent d'une douce mélancolie. On retrouve quelques grands succès forcément, mais pas seulement. Voyou.
Je me suis dit, plutôt que de prendre les chansons que tout le monde connaît déjà, je vais en prendre quelques-unes, mais parce qu'elles me plaisent, et puis aussi essayer d'aller chercher des chansons oubliées de Salvador, qui se sont un peu perdues avec le temps, qui sont des joyaux de sa discographie, mais qui ont été un peu des phases B de Zorro est arrivé, ou des phases B de Juanita Banana, ou de chansons comme ça, quoi.
Et parmi ces chansons restées dans l'ombre, il y a par exemple Pauvre Jésus-Christ, un titre qu'il interprète aux côtés de Flore Bengue, Ngigi, ex-chanteuse du groupe pop L'Impératrice.
Pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur terre.
Et puis ce n'est pas une raison pour fouiller les poubelles, Romain, mais à en croire une enquête indépendante, une œuvre d'Andy Warhol qui a disparu à la fin de l'année dernière aux Pays-Bas a probablement été jetée à la poubelle. Elle s'était volatilisée avec d'autres lors des rénovations de l'hôtel de ville Duden dans le sud-est du pays. Pas de chance, la sérigraphie de Warhol représentait Béatrix, reine-mère des Pays-Bas. Alors de Warhol ou de la reine Béatrix, je ne sais pas pour laquelle c'est le plus vexant.
Mais comment faire pour la retrouver surtout ?
Écoutez, ça va être compliqué manifestement, c'était avec les déchets, les encombrants.
Ah oui, j'ai bien compris. Merci beaucoup Christophe Pagé. C'était le grand journal du soir sur RFI, 20h bientôt 16 minutes ici à Paris. Et le programme des prochaines minutes, c'est bien le porte-parole du Kremlin qui s'exprime devant la presse française. C'est une première depuis 3 ans et c'est l'hebdomadaire Le Point qui réalise cet entretien donc exclusif de Dmitri Peskov. On sera en ligne avec la journaliste qui a mené l'interview. Détail à suivre dans les prochaines minutes. Et puis dans le silence de Bétarame, alors ça c'est le titre d'un livre signé de celui qui a révélé cette affaire de violence au sein d'un établissement catholique du sud-ouest de la France. L'ouvrage sort aujourd'hui et c'est l'occasion d'évoquer l'effet boule de neige de cette affaire, notre reportage. Mais pour l'heure, voici les sports. Bonsoir Baptiste Leduc.
Bonsoir Romain.
Alors on va pas commencer par le foot mais par le tennis. Le Masters 1000 de Madrid, plusieurs têtes d'affiche ont fait leur entrée en lice ce jeudi chez les dames d'abord.
Et pas d'incident à déplorer chez les favorites. Iga Swiatek, la tenante du titre, a quand même laissé le premier set à la jeune prodige philippine Alexandra Ayala. Rappelez-vous Romain, la jeune femme de 19 ans avait épaté tout le monde à Miami en atteignant les demi-finales. Mais face à la numéro 2 mondiale polonaise, la marche était un peu trop haute. 4-6, 6-4, 6-2 pour Swiatek qui file au troisième tour sur la terre battue madrilène.
Alors du côté des hommes, le tournoi va se faire sans l'un des chouchous du public, Carlos Alcaraz.
Espagnol numéro 3 mondial a préféré renoncer, trop de douleurs musculaire aux deux jambes, justifie-t-il. Inquiétant à quelques semaines de Roland-Garros seulement, mais justement, Carlos Alcaraz ne veut pas prendre le risque d'aggraver son état et de devoir renoncer à ses prochains objectifs.
J'ai fait tout ce qui était possible, tout ce qui était en mon pouvoir pour être prêt. Mais les choses ne se sont pas beaucoup améliorées. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut écouter son corps. Même si j'attends Madrid toute l'année, j'adore y jouer, mais ça ne sera pas possible cette année. Nous avons déjà pris la décision de ne pas prendre de risques. Si je joue, j'aggrave mon cas. Là, je vais essayer de me reposer, de récupérer et d'être de retour sur les courts dès que possible. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que je serai à Roland-Garros, peut-être même à Rome. C'est ça l'objectif.
Carlos Alcaraz au micro de Pierre Chaperon.
En basket, la réaction attendue du Paris Basket sur le parquet de Fenerbahçe en quart de finale d'Euroleague.
Maîtrisé par les Turcs, dans les instants clés du match 1, les Parisiens cherchent leur revanche pour reprendre l'avantage du terrain dans ce quart de finale qui se joue au meilleur des 5 matchs. Mais après 2 cartons presque, c'est compliqué. 38-29 pour Fenerbahçe, les coéquipiers de Nadir Ifi vont devoir courir après le score. Et puis restons dans le basket, jetons un œil à la soirée NBA, les playoffs, Romain, si vous le voulez bien. Dès 23h en temps universel, les Pistons de Détroit donnent rendez-vous aux New York Knicks. Pour reprendre les mots de notre spécialiste basket Babacar Diarra, voilà une affiche qui flaire bon les années 90. Il y a un partout dans la série de ce premier tour des playoffs.
Et puis en judo, pas de 6e titre continental pour Clarisse Agbegnénou.
Cruel dénouement puisque la Française a été disqualifiée en finale des moins de 63 kilos de ses championnats d'Europe. C'est un mouvement illicite qui a été sanctionné. Clarisse Agbegnénou récolte donc la médaille d'argent et laisse l'or à la Tchèque Renata Zakova. La médaillée de bronze au dernier JO va désormais prendre une pause dans sa carrière pour donner naissance à un deuxième enfant.
Allez, une fois n'est pas coutume, on va terminer avec du football. Une figure de la Première Ligue qui s'apprête à dire adieu à son club de cœur.
C'est Jamie Vardy, l'attaquant anglais, qui a annoncé qu'il quitterait Leicester à la fin de la saison. Évidemment, il était un des piliers des Foxes lors de cette saison 2015-2016 incroyable où Leicester avait décroché le titre de champion le plus inattendu peut-être de l'histoire de la Première Ligue. Jamie Vardy est d'ailleurs le dernier rescapé de cette épopée à être toujours au club, mais l'histoire ne se terminera pas aussi bien qu'il l'aurait voulu puisque Leicester est déjà condamné à la relégation en Championship, le deuxième échelon à l'issue de cette saison.
Eh bien, merci Baptiste Leduc, c'était le journal des sports ce soir sur RFI, 20h19 ici à Paris.
la guerre en Ukraine à présent et la pression qui s'accentue sur Moscou. La nuit a été marquée par des frappes meurtrières de la Russie sur Kiev, la capitale ukrainienne, ce qui a provoqué la réaction de la France par la voix d'Emmanuel Macron, mais également la réaction de Donald Trump, le président américain, qui, sur son réseau social, écrit ceci, je cite « Vladimir, arrête », et cela en lettres majuscules, en référence évidemment au président russe. Bonsoir Anne Niva.
Bonsoir.
Grand reporter à l'hebdomadaire Le Point. Alors vous rentrez de Russie où vous avez pu rencontrer l'une des personnes les plus importantes au Kremlin, le porte-parole Dmitri Peskov, qui vous a accordé un entretien de plus d'une heure qu'on peut retrouver à partir d'aujourd'hui dans Le Point et sur le site internet de l'hebdomadaire. C'est un entretien, il faut le préciser, à Niva, qui est exclusif, puisque c'est oui. Le premier qui a été accordé à un média français depuis 3 ans. Pour commencer, puisque je faisais référence aux frappes qui ont été menées la nuit dernière, dès le début de l'interview, vous interrogez Dmitri Peskov sur les victimes civiles de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'il répond à cela ?
Et l'interview a eu lieu pratiquement au lendemain de la frappe par l'armée russe du centre-ville de la ville de Soumy en Ukraine, le matin du 13 avril. C'est pour ça que j'ai commencé l'interview là-dessus, je pouvais évidemment pas faire autrement. Et la réponse de Dmitri Peskov, elle est claire, elle est de dire que et de répéter que évidemment l'armée russe n'a que des cibles qui sont des objets militaires et qui ne sont pas civils. Et ça, c'est effectivement la défense russe depuis le départ dans cette guerre. Et quand je lui demande comment ça aurait pu être évité, eh bien, sa réponse, disons, en guise de d'esquive presque, c'est de dire que ça aurait pu être évité si en 2014, ce qu'il appelle la guerre civile, n'avait pas commencé. Donc évidemment, là, on sent, même si Dmitri Peskov, et c'est son rôle, à réponse à tout, on sent quand même une légère gêne.
Alors, vous l'avez aussi interrogé sur le fameux plan de cesser le feu proposé par Donald Trump que la Russie a refusé. Pourquoi la Russie a refusé ce plan ?
La Russie, selon Moscou, a refusé ce cessez-le-feu total parce qu'elle est méfiante. Je pense d'ailleurs que c'est un des messages principaux de cet entretien, parce qu'il me répond par une pirouette, par une autre question, en me demandant si justement la France, il me prend à partie, ou le Royaume-Uni cesserait dès demain de livrer des munitions, des canons, des missiles à l'Ukraine si justement ce cessez-le-feu intervenait aujourd'hui. Donc ça, c'est toujours, une fois de plus, la tactique russe, c'est de renvoyer la balle finalement.
Alors justement, les Européens, vous y faites référence et il en a été beaucoup question dans cet entretien que Dmitri Peskov vous a accordé.
Très important pour moi d'avoir l'impression, disons, le point de vue russe sur le rapport avec l'Europe, parce qu'il est très mauvais ce rapport avec l'Europe.
Justement sur l'après-guerre en Ukraine, concernant la sécurité du continent, les inquiétudes des Européens sur ce sujet, qu'est-ce que répond Dmitri Peskov ?
Mais Dmitri Peskov, d'abord, quand je lui demande si la Russie méprise l'Europe, il me répond oui. Et ça, je pense que c'est un moment vraiment important de l'interview. Le mot est fort quand même. Le verbe que j'ai choisi d'utiliser en russe, d'ailleurs, puisque j'ai choisi de faire cet entretien en russe, qui n'est pas ma langue maternelle, mais pour que justement il n'y ait aucune barrière de la langue et que je puisse avoir en face de moi un représentant du pouvoir russe qui parle sa propre langue, eh bien, ce mot, il ne l'écarte pas. La Russie méprise l'Europe, dit-il, et elle ne méprise pas du tout les États-Unis, donc à contrario, mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est ce qu'il raconte aussi. Il raconte que la Russie avait chaussé ses lunettes roses, c'est-à-dire que la Russie avait été, selon Moscou aujourd'hui, trop optimiste dans les années qui ont précédé cette guerre à propos de l'Europe, et qu'aujourd'hui, justement, face à ce que la Russie ressent comme un danger pour sa propre sécurité, eh bien, elle ne s'arrêtera pas, et que ses buts ne sont toujours pas atteints, il me l'a dit, les buts n'ont pas été atteints, et ils seront atteints, dit-il, pacifiquement ou militairement.
Ouais, c'est la phrase qui est en exergue de cette interview. Et l'Amérique de Trump, alors vous avez évoqué les Européens, mais l'Amérique de Trump, comment Dmitri Peskov la perçoit-il ? Les relations, parce qu'évidemment, il y a une rencontre Vladimir Poutine-Donald Trump qui est possiblement évoquée.
Oui, mon intérêt dans cette interview, ma curiosité, c'était d'essayer de comprendre les rapports quasi personnels, directs entre Donald Trump et Vladimir Poutine, parce qu'on sent bien qu'ils sont justement beaucoup plus positifs que les rapports avec n'importe quel dirigeant européen. J'ai même l'impression parfois que ces relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis sont peut-être même plus importantes que la paix en Ukraine. Donc je lui ai posé cette question complètement directement, et s'il minimise un petit peu l'importance des rapports bilatéraux bilatéraux entre la Russie et les États-Unis. On sent bien, d'après ses réponses, que les deux hommes, justement Vladimir Poutine et Donald Trump, s'ils ne s'entendent pas, bien sûr, sur tous les domaines, ont des affinités personnelles. Et il a même ajouté qu'il a insisté sur les difficultés de Donald Trump depuis qu'il est à revenir au pouvoir, le fait que sa famille a été salie, qu'il y a eu des enquêtes, c'est ce que me dit Dimitri Peskov, et que justement c'est un homme fort, et que Vladimir Poutine lui-même étant fort, il aime les hommes forts.
Peskov, l'homme qui murmure à l'oreille de Poutine, c'est le titre de cet entretien, donc exclusif, que Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, vous a accordé à retrouver donc cette semaine dans Le Point et sur le site internet de l'hebdomadaire. Merci beaucoup, Anne Niva.
Merci à vous.
20h25 ici à Paris, en France, l'affaire Betarame qui revient sous les feux de l'actualité, affaire de violences physiques et sexuelles il y a plusieurs décennies au sein d'un établissement catholique du sud-ouest du pays. Alors il y a un témoignage qui a fait grand bruit ces derniers jours, c'est celui de la fille du Premier ministre François Bayrou, alors que ce dernier est accusé d'avoir fermé les yeux sur ces faits. Eh bien sa fille Hélène Perlan affirme avoir été victime de violences. Son témoignage figure dans un livre publié ce jeudi intitulé « Le silence de Betarame », fruit de 18 mois d'une quête de vérité auprès des anciens élèves de l'établissement. Betarame qui a permis de libérer la parole dans d'autres établissements privés où d'autres scandales éclatent. C'est un effet boule de neige que nous raconte Marie Cazadebet.
Alors, j'en sois sur plein de réseaux différents en fait.
Constance Bertrand sort de son sac son ordinateur portable.
J'en ai eu encore ce week-end.
Depuis un mois et demi, cette quadragénaire reçoit quasi quotidiennement des récits d'anciens élèves de l'établissement privé catholique où elle a été scolarisée.
À l'origine, on a ouvert ce groupe Facebook parce que on apprend le 3 mars qu'un surveillant de Betarame a poursuivi sa carrière directement après Betarame à Saint-Dominique de Nuit.
Mais les messages qui affluent ne concernent pas seulement ce surveillant.
En 5 jours, on obtient des témoignages de choses gravissimes sur 6 personnes.
Des accusations de violences physiques, psychologiques, d'agressions sexuelles et de viols. Beaucoup sont anonymes, publiés en message privé. Constance, qui elle-même a été victime de harcèlement, décide alors de témoigner à visage découvert.
J'ai trouvé que c'était important de le faire pour que les gens sachent à qui ils s'adressaient. Et puis les témoignages arrivent. Ça, c'est mon cahier des horreurs, en fait. Je suis obligée de prendre des notes pour ne pas mélanger les témoignages, etc.
Une cinquantaine de victimes sont déjà sorties du silence pour des faits allant des années 80 au début des années 2000.
Une maîtresse qui arrache l'oreille d'une petite fille, une maîtresse qui donne des coups de poing dans la tête d'un enfant, un maître qui caresse des enfants sous la jupe. Les parents ont la plupart du temps fait des démarches auprès de l'institution, mais l'institution ne les a pas soutenus.
Combien alors vous avez répertorié de personnes accusées de violence ?
On en est à une dizaine. On a des enseignants, des surveillants, des prêtres aumôniers, les censeurs. Censeur, c'est le responsable de la discipline.
5 plaintes ont été déposées, dont une pour viol.
Un enfant maltraité tout court, s'il vous plaît, un peu de courage.
Le 20 mars dernier, ensuite, Constance Bertrand prend la parole devant la commission d'enquête parlementaire mise en place fin février suite au scandale de Notre-Dame de Betarame. Depuis, cette commission a enregistré des signalements dans 17 départements. Pour Arnaud Gallet, président de l'association de protection de l'enfance Move Enfant, un double phénomène explique ces révélations en cascade.
Un, vous avez le pouvoir d'identification. C'est-à-dire que les victimes s'identifient entre elles et ça leur permet de parler parce qu'elles vont se dire, bah, tiens, c'est ce que j'ai vécu. Le second élément est quand même extrêmement politique. Le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église en 2021, il disait que 108 000 enfants ont été victimes de violences sexuelles dans des établissements privés. Et personne ne fait rien. Du coup, vous avez une colère, en fait, qui vient. C'est-à-dire que les enfants ou les enfants devenus grands ont parlé, mais on ne les a pas protégés.
Ce MeToo de l'enseignement pourrait bien dépasser le secteur privé catholique. Pour la première fois ce mardi, la commission d'enquête s'est rendue dans un lycée public où un enseignant visé par plusieurs plaintes s'est suicidé fin 2023.
Alors, reportage signé Marie Cazadebet. Et restez à l'écoute, la session d'infos évidemment se poursuit sur Radio France Internationale. Sylvie Berruet est déjà à mes côtés. Dans une minute, ce sera Afrique Soir, la première édition de ce jeudi. Ne bougez pas, on revient tout de suite.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
100 jours après le retour au pouvoir de Donald Trump, où va l'économie des États-Unis ? Entre risque d'inflation et menace de récession, les Américains et leurs entreprises sont-ils dans le doute ? Émission 100% USA avec nos envoyés spéciaux, témoignages et analyses.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème de demain.
À l'occasion du sommet Change Now, l'exposition universelle des solutions pour la planète à Paris, nous donnons la parole aux femmes engagées dans la transition écologique et féministe sur le continent.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.